01 34 12 12 22.
Vous écoutez IDFM. Il est 20h.
Léger, bonsoir, votre émission face à face avec Fabrice à la technique. Ce soir, je reçois l'association nationale EDVO et deux invités supplémentaires de ex-toxicomanes ou dépendants de quelque chose. On en reparle dans quelques instants. À tout de suite. Michel Léger, votre émission face à face avec l'association EDVO, bonjour. Fabrice à la technique, on va faire un petit tour de table pour les présentations. Jean-Paul Bruno, président de EDVO.
Bonsoir, donc heureux d'être à nouveau parmi vous et puis j'espère qu'on va apporter toutes les réponses à vos questions puisque c'est aussi un débat.
Vous pouvez d'ailleurs, au cours de ces deux heures, nous téléphoner, poser vos questions aux invités au 01 34 12 12 22. Vous pouvez aussi nous écouter depuis Marseille, où Jean-Paul était l'autre fois à Lille. Il nous a écouté depuis Lille via Internet. Vous tapez dans un moteur de recherche IDFM, et après, vous accédez directement à la radio en direct. Ludovic.
Bonsoir. Donc, moi, je suis Ludovic Lefebvre. Je suis écrivain. Et j'étais toxicomane, alcoolique. Et, voilà.
Et combien d'abstinence ?
C'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, le 25 avril.
Abstinent depuis 15 ans.
Le 25 avril, oui.
Joseph.
Oui, bonsoir, je m'appelle Joseph. Je suis abstinent depuis d'alcool essentiellement, puisque je ne suis pas un ancien alcoolique. Je reste un alcoolique, mais je suis abstinent donc depuis presque 18 mois. J'aurai 18 mois d'abstinence le 28 avril. Voilà.
Jean-Paul Bruno, EDVO. EDVO, ça veut dire quoi ? Association nationale EDVO.
Alors, l'association donc a une dimension nationale depuis pas mal d'années. En matière d'écoute, donc que ce soit par téléphone ou en ligne directe, écouter toute personne en difficulté avec un problème d'addiction ou un proche, parce que beaucoup souffrent en présence de quelqu'un qui refuse de soigner ou qui cherche des pistes pour se soigner. Donc être à l'écoute, c'est la première mission, c'est le E de EDVO. Développer d'autres alternatives pour vivre mieux, C'est aussi l'objectif que l'on essaie d'avoir en commun quand on reçoit quelqu'un qui cherche une piste pour sortir de son addiction ou sa famille. Donc on a des pistes, on a un réseau, on a un service, je dirais, de suite, et on a un suivi ambulatoire pour les préparer tant au sevrage, puisque beaucoup ont besoin d'un sevrage. Pour d'autres, c'est tout un système de soins qu'il faut mettre en place avec l'hébergement et puis la réinsertion. Et à la sortie de la réinsertion, penser à l'autonomie, c'est-à-dire le travail et surtout un logement. C'est très difficile, surtout en ce moment. Et puis, donc le V de EDVO, c'est vivre libre sans drogue surtout, sans produits qui modifient le comportement ou qui vont rendre esclaves, parce que beaucoup de produits finissent par avoir une telle incidence sur la vie qu'on ne peut plus s'en passer. Et puis orienter, donc le haut de orienter toute personne en difficulté, c'est aussi un service que l'on apporte à travers l'écoute téléphonique, à travers des rendez-vous. On n'est pas forcément les mieux placés pour répondre, donc il faut surtout orienter utilement et d'une façon très objective, savoir orienter sur la bonne personne. Donc ça, c'est aussi notre travail. Et puis orienter, quelquefois, c'est tout simplement quelqu'un qui a besoin tout simplement de se loger ou de se vêtir ou de se nourrir. Et on a sur deux épiceries sociales de quoi prendre en charge beaucoup de familles en difficulté ou beaucoup de personnes en difficulté. Voilà, donc c'est aussi pour EDVO une des missions très importantes, la prévention en milieu scolaire. On fait toute la France, là où on est demandé, pour apporter un peu tout ce qui est, disons, conseils, mais également informations utiles à maîtriser quand on veut aller consommer des produits. Donc il faut savoir quel est le risque, mais aussi qui ne peut pas prendre ce risque. Donc il y a beaucoup de choses aussi à savoir là-dessus. Et puis que faire quand on sent attiré par des produits psychoactifs. On fait aussi de la formation d'acteurs relais. Donc ça, c'est important, ça fait partie des missions de DVO. Également, donc, la formation d'acteurs relais dans les entreprises, parce qu'on s'attache aussi à tout ce qui est prévention dans le milieu professionnel. Il y a l'écoute parents, donc dans le groupe écoute parents aussi, qui fait partie de nos missions. Donc tout cela sur une activité en continu, pas 24 heures sur 24, mais en tout cas un maximum d'écoute pour toute personne en difficulté.
Jean-Paul Bruno, qu'est-ce qu'une addiction ? Est-ce qu'on peut donner une définition ?
L'addiction, c'est souvent donc un lien avec un comportement compulsif vers un produit ou vers, par exemple, le jeu, qui répond en fait à une pulsion liée à un mal-être, quelquefois, ou à, je dirais, une forme d'attirance sur quelque chose pour vider ce qui fait mal, quelque part, ou se remplir de quelque chose parce qu'il y a un grand vide. Et le produit ou le comportement addictif va venir remplir, va venir occuper une place. Et puis quand on a, disons, satisfait ce besoin, si ce besoin donc récidive trop souvent et qu'on reprend toujours le même chemin, le même comportement, ça devient quelque chose qui est de la manie, toxicomanie. Donc ça devient un fonctionnement qu'on adopte. C'est-à-dire, dès que ça va mal, on se réfugie ou on va vers soit le produit ou vers le comportement qui soulage ou qui remplit. Donc, et dès que ça devient un mécanisme perturbant, c'est là où on doit se rendre compte que ça devient un mécanisme qu'on ne contrôle plus vraiment. Qu'il y a cette attirance qui perturbe, c'est-à-dire qu'on est fébrile si on n'a pas son produit, si on n'a pas satisfait ce besoin. Dès que cette fébrilité entraîne des troubles du comportement, là on doit pouvoir se rendre compte qu'on est addict, qu'on est dépendant, et que ce soit d'ordre psychologique ou que ce soit d'ordre physique avec certains produits, ou les deux à la fois. Donc cette addiction fait souvent place à ce qu'on appelle le déni. Donc, c'est-à-dire qu'on se ment à soi-même, on ne veut pas se rendre compte qu'on est addict, et en fait, on va se mentir et compulser encore plus, parce qu'en général, on ne s'aime pas quand on est comme ça. On finit par avoir un manque d'estime de soi, et tous ces éléments conjugués font que l'addiction va prendre du champ, va prendre de plus en plus de place dans la vie de l'individu, voire même dans le corps de l'individu, quand il s'agit d'un produit qui atteint le mécanisme biochimique de l'organisme, qui va fausser un certain nombre de sécrétions hormonales, et on a besoin de ce stimulant ou de ce soulagement, donc ça vient jouer un rôle physique. Donc tout ça, c'est l'addiction.
Donc, pour détecter un début d'addiction, c'est ce que vous venez, un peu ce que vous venez de nous dire.
Alors détecter, on pourrait, je dirais très tôt, voir un peu quelles sont les prémices. Par exemple, le premier verre d'alcool, tout simplement, pris à la maison, et il y a beaucoup de parents qui pourraient, disons, être vigilants là-dessus. Si enfant ou adolescent, on va vers son premier verre d'alcool avec, disons, l'utilisation d'un de ses sens, un des sens qui est quand même très important, puisqu'il nous fait vivre des sensations, le sens gustatif. Si le premier verre d'alcool, on se limite à utiliser ses papilles, donc le sens gustatif fonctionne, on est là pour apprécier les différences dans le goût, enfin tout ce que ça peut apporter à travers ce sens. Si on est là uniquement pour goûter à travers ce mécanisme, et que dès qu'on ressent des effets plutôt d'ivresse, parce qu'on est avec une boisson alcoolisée, et si cette ivresse ne nous plaît pas et qu'on se limite au goût, c'est-à-dire qu'on rejette plutôt l'ivresse, mais on se satisfait du goût, je dirais que là on est dans un fonctionnement tout à fait normal, et voire un peu sécurisé. Cependant, si le premier verre d'alcool, c'est pas le goût qui attire, mais c'est uniquement l'effet, c'est-à-dire qu'on est uniquement attiré par les effets de cette boisson alcoolisée, là, on est en danger. Ça veut dire qu'on a déjà des aptitudes au dépassement de sa consommation. C'est-à-dire que si à chaque fois que on a l'occasion de goûter un verre d'alcool, on est attiré par l'effet et non par le goût, attention, danger. Là, on a déjà des prédispositions. C'est un peu la même chose avec tous les produits psychoactifs. Donc il faut être vigilant, tout simplement apprendre à vivre avec cette fragilité. On est tous d'une sensibilité différente les uns des autres, et là encore, c'est des prémices qui devraient alerter tant la personne que son entourage.
On a des addictions, enfin on va pas rentrer dans le détail des différentes addictions, mais alcool, drogue, bon, ça se comprend. Addiction, on en parle de plus en plus, Internet. Des jeunes qui passent des journées, voire des nuits entières sur Internet, aux jeux, Là, c'est quoi? C'est un produit psychoactif? Comment ça se passe C'est combler un manque, comme vous disiez tout à l'heure?
L'occupationnel est quelquefois une réponse, s'occuper, faire intensément du sport, avoir une activité très intense pour oublier ou pour fuir, là encore, fuir l'ennui surtout. Donc on est chez certains dans des mécanismes qui vont se mettre en place. Internet, c'est pas dangereux si on garde une maîtrise, si on l'utilise à bon escient, mais si on considère que ça devient un espace de vie et que ça occupe de plus en plus son espace de vie, c'est là où ça pose problème. Si on y va sans, mesurer le temps qu'on y passe, et ce qui se passe dans son environnement, c'est clair que si on s'isole avec son écran, on ne communique plus avec les autres, donc cette notion d'isolement est quand même très importante. On va se négliger au niveau du sommeil ou tout simplement des repas, on focalise un peu son fonctionnement cérébral, donc ses neurones vont être un peu conditionnés, non plus par une multitude de choses qui se passent dans son environnement, les odeurs, le goût, la vue, ce qu'on entend, là on est capté par un écran. Et on impose un peu à son cerveau un type de fonctionnement qui peut poser problème. Donc il faut être vigilant un peu sur toutes ces mécanismes qui se mettent en place, qu'on va mémoriser, qui vont devenir répétitifs. Et c'est là où, quand le besoin se fait sentir de passer des heures et des heures devant son écran, il faut aussi penser aux conséquences et prendre toute la mesure des conséquences de ce comportement un peu excessif, compulsif, et reprendre la maîtrise de soi quand on peut, bien sûr.
Et ça, votre association peut aider à... par des écoutes, par...
Tout à fait, on a cette capacité non seulement d'écouter, mais d'évaluer avec la personne ce qui pose problème et la mettre face à ses comportements d'addiction. Et l'amener à choisir d'autres comportements pour un peu désamorcer ce système contraignant ou cette manie ou toxicomanie qui se met doucement en place. Au départ, ça ne vient pas d'un seul coup, hein. C'est toujours progressif. Mais je pense que Ludovic et Joseph pourront en parler beaucoup plus que moi, puisqu'ils sont passés par un ensemble d'addictions.
Joseph, oui. Je savais qu'il y avait un Joseph qui venait, on va faire une pause musicale, et j'ai trouvé un Joseph. Alors c'est un vieux Joseph, mais bon, vous êtes jeune. A tout de suite.
Voilà ce que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé, mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier. Ton père te l'avait appris. Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie, la voix des anges, là. Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie.
Pour les enfants.
Joseph.
Oui,
Joseph, vous voulez bien? Alors, il y a... Comme je vous l'ai dit un peu en aparté au début de l'émission, je vous l'ai dit à tous les deux d'ailleurs, si mes questions soient indiscrètes ou je ne sais pas, vous avez le droit de ne pas répondre, hein, tout à fait. Racontez-nous un peu, si vous voulez bien, peut-être rapidement, un peu les grandes lignes de votre histoire. On va mourir demain, le plus tard possible. Mmh. Entre les deux, vous y mettez quoi? Et jusqu'à maintenant, faut tout au moins au début de votre vie, vous y avez mis apparemment une addiction à quelque chose.
Moi, je voudrais surtout parler d'une chose, parce qu'en fait, je voudrais parler plutôt pour les personnes peut-être que j'ai fait le plus souffrir ou qu'on fait le plus souffrir, c'est-à-dire nos parents. Nos parents et notre entourage. Et ça commence très jeune. Et je veux dire une chose, c'est que là, pour mon cas en personnel en tout cas, c'était une addiction sans produit. C'est-à-dire que c'était, je crois, un malaise à la fois émotionnel et psychologique qui s'est caché, donc une souffrance qui s'est cachée, qui ne voulait pas se dire. Et à un moment donné, moi, de l'adolescence étant venue, je n'arrivais plus à trouver les mots pour parler, et surtout les émotions, je ne voulais plus transmettre mes émotions. Je ne voulais plus qu'on les... Je ne voulais plus, comment dire, permettais même pas de les vivre. C'était une espèce de torture que je m'infligeais. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me rends compte avec le recul que mes comportements à la fois compulsifs sont apparus. Dans le sport,
et surtout dans la rêverie, parce que la rêverie peut être aussi une porte de sortie, mais une rêverie très très, je veux dire, presque mortifère parfois, jusqu'à des envies de suicide, voilà. J'ai caché ça pendant très longtemps, et le palliatif que j'ai trouvé, c'est, pour moi, ça a été au départ la dépression, parce que la dépression, ça peut être un palliatif et un cri d'alarme que j'ai lancé à ma mère, mais ensuite, ça a été effectivement les médicaments et l'alcool. Parce que l'alcool, ça me permettait d'avoir un semblant de vie sociale et d'avoir des rapports plus cordiaux avec les gens, d'abord. Ça a été comme ça, d'abord. Et ensuite, c'est devenu quelque chose qui s'est installé. Et une fois installé, ça a pris le pouvoir dans ma vie, sans que je m'en rende compte, parce que le déni, pour moi, a duré au moins 15 ans, je pense, ouais, 15 ans.
Et maman, je ne sais pas si elle est encore là.
Oui, elle est là encore. J'ai une pensée pour elle, évidemment.
Ouais. Maman ou papa, d'ailleurs,
je sais pas. Ma mère. Mon père est mort très jeune, oui.
Et est-ce qu'elle elle s'est rendue compte de ce qui vous arrivait
Non, je ne crois pas. Malheureusement pour moi, et peut-être pour elle aussi, je ne pense pas qu'elle se rende vraiment tout à fait... qu'elle se soit rendue vraiment tout à fait compte de ce que j'ai vécu et de ce... voilà. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Voilà. Et je pense que ça fait peut-être que c'est l'un de mes grands regrets. Et peut-être aussi parce qu'on n'a pas eu le courage l'un et l'autre de se parler franchement. Voilà. Mais je veux dire, ça veut dire que ce que je veux, j'insiste là parce que j'ai 48 ans aujourd'hui et que c'est quand même des maladies très insidieuses et très lourdes, parce que pour rester avec ce poids de culpabilité au niveau des mots et de ce qu'on a vécu, à savoir ne pas pouvoir le dire, cette souffrance d'un enfant tout simplement, qui a voulu la cacher, je trouve que l'un des nœuds de la maladie est là, je pense. Voilà, c'est tout.
C'était après, une honte pour vous ? Non.
C'était une défaite, une débâcle et une honte, oui. Voilà.
On reviendra vers vous, Ludovic. Votre histoire. Si on peut la.
Bien sûr, mon histoire est bien différente et j'ai une perception bien différente. C'est un petit peu ce qui fait ce qui peut faire la richesse de cette émission ce soir, c'est que j'étais un gamin très ouvert, très joyeux, très en avance, et j'ai commencé à boire lorsque j'avais 11 ans, parce que j'avais des amis qui faisaient du foot, qui étaient plus âgés, dans un désir d'appartenance, dans un désir d'affronter, dans un désir de passage à l'âge adulte, avant l'heure, comme j'étais en avance sur la plupart de mes actions, et... j'ai détesté boire, j'ai bu tout de suite en énorme quantité, mais j'avais ce désir très fort, j'étais déjà mégalomane à l'époque, et j'avais déjà ce désir très fort d'appartenance, de briller, que l'on me voit, ce n'était pas une souffrance, je serai quelqu'un de très sociable, c'était pas un refuge, c'était pour être. J'étais d'une petite ville du Pas-de-Calais et il n'est pas rare que des gens boivent de l'alcool dans cette région, et je ferais ça avec un petit peu de recul, comme un rite de passage à l'âge adulte, avec une nature excessive et une nature à aller chercher les limites, à vouloir l'au-delà.
On dit à un homme quand on fume, quand on boit, quand c'était un peu ça.
Non. Voilà, c'était ça. Et puis mes amis avaient 4-5 ans de plus. J'ai fumé ma première cigarette, j'avais 8 ans. La première fois que j'ai volé une bécane, j'avais 10 ans. La première fois que j'ai couché avec une fille, j'avais 11 ans. La première fois que je me suis saoulé, j'avais 11 ans. Voilà quoi. C'était toutes des fiertés, c'était des choses ressenties. J'avais une clope comme le poster de James Dean, voyez-vous. J'étais... Moi, je me bagarrais contre des gens plus âgés, je buvais de l'alcool, j'étais un homme, quoi, voilà, comme les marins pêcheurs de ma petite ville de bord de mer, oui.
Jean-Paul Bruno, parmi vos pensionnaires, on retrouve un peu les mêmes...
Comme on est tous différents les uns des autres...
Oui, on est tous différents.
On a, disons, une approche différente... de ses premières expériences avec les produits ou de ses premières sensations fortes qu'on va chercher justement pour l'affirmation de soi, pour le dépassement de soi, et en fait les histoires sur les 26 pensionnaires, on pourrait avoir 26 histoires différentes Sauf que pendant l'adolescence ou pendant l'enfance, il peut se passer des choses qu'on n'a pas forcément prévues, on peut subir et ne pas en parler. Donc je pense que Ludovic pourra dire un peu que ce qui s'est passé, puisqu'il a écrit un bouquin là-dessus et qui est, que j'ai pu lire et apprécier et comprendre un peu mieux pourquoi on en arrive dans des comportements quelquefois d'autodestruction, parce que une souffrance qu'on dit et qui n'est pas écoutée, c'est très, je dirais, c'est catastrophique quelquefois. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut, comme disait Joseph, l'écoute, très important, essayer de se parler très tôt, et puis mettre en place très tôt des mécanismes où l'espace de parole, c'est avant tout parler de soi, parler de ce que l'on ressent. Pas de ce que l'on veut paraître ou ce que l'on fait forcément dans le quotidien, mais parler de ce qu'on vit ici et maintenant, très important. Donc pour arriver à démasquer un peu tous ces éléments qui font que on va s'appuyer dessus, ou on va s'appuyer sur des comportements à risque pour aller au-delà.
Donc, Ludovic, comment... Quand est-ce qu'on touche son fond, pour reprendre une expression qu'on entend quand on fréquente cette association ?
Eh bien, je pense que c'est très variable d'un individu.
Oui, évidemment. D'un individu. Dans votre cas ?
Dans mon cas, si vous voyez, si vous voulez, dans la mesure où ça s'est compliqué pour moi par la suite, ou c'est que je suis quelqu'un qui suis devenu sciemment alcoolique et toxicomane et pharmacodépendant, sachant très bien ce qui allait m'attendre. Bien sûr, bien sûr. C'était une démarche de masque social pour pouvoir... J'étais violé à l'adolescence, ça a duré des années. Et si vous voulez, la première fois où c'est arrivé, jusque les années qui ont suivi... quelque chose que j'ai vécu atrocement, où ça a été l'humiliation, où ça a été la peur, où tout d'un coup j'ai perdu toute confiance en moi, et le petit dur très autonome que j'étais tout d'un coup ne se sentait plus rien et ne comprenait pas cette peur qui l'empêchait de se sauver. Et c'est consciemment que j'ai pris en même temps j'étais en sport études athlétisme, je faisais du Viet Vodao, j'avais de bons résultats scolaires, mais c'est consciemment que j'ai pris de l'alcool des tranquillisants, des drogues par la suite de toute nature, dans le but à la fois de me détruire et à la fois de pouvoir continuer d'aller en cours, de pouvoir continuer d'avoir des amis, de pouvoir continuer. Moi, l'alcool et la drogue, dans un premier temps, m'ont sauvé la vie, et dans la situation où j'étais, puisque je ne savais pas que j'étais malade de mes secrets et que de ne pas parler de ce que je vivais, de cet enfer, et je ne voulais pas, j'avais honte de l'endroit où je venais, on ne parlait pas de ce genre de choses, et je ne suis pas toujours sûr que ce soit une bonne chose, mais j'ai décidé d'en parler, un peu par esprit de provocation, mais et par esprit philosophique aussi, mais c'est aussi, voilà, c'était pas simple d'en parler à personne, j'avais un poids énorme, et ce poids énorme pour le vivre... Ben, je picolais, et je prenais de l'héroïne, du hashish, des tranquillisants, de la colle à rustine, tout ce qui pouvait me mettre dans un état second. C'est un état supportable.
On va faire une pause musicale. Juste après la pause, parce qu'il nous faut un peu de temps pour que vous nous expliquiez tout ce qui vous est arrivé. A tout de suite.
Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile me condamner tant d'innocence, à tant de larmes et de souffrances. La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait de par le monde faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs, et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil. Des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied, en secret, dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent, à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté pour les enfants du monde entier. Pour les enfants du monde entier.
Votre émission Face à Face, Michel Léger, Fabrice La Technique, avec l'association nationale EDDO. Toutes addictions. Ludovic, vous venez de nous dire juste avant la pause, j'ai été violé adolescent. Vous avez écrit un livre pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous...
En fait, ce livre, je lui ai donné une vocation surtout essentiellement littéraire et philosophique. C'était un livre...
C'est aussi bon.
Pour me défendre, pour obtenir justice, pour parce que il y a toute une culture de la victimisation et des médias qui fait que pour obtenir justice, comme je suis de la ville d'Outreau et que mon affaire est étouffée par la ville d'Outreau, il me fallait passer par les médias, vu que mon affaire est étouffée par cette dramatique affaire où des gamins ont été abusés, où des gens ont été accusés injustement. Je vais choisir cette voie-là, si vous voulez, pour essayer de toucher le monde judiciaire qui a étouffé mon affaire à cause justement de ce drame judiciaire. Donc c'est le but de ce livre, c'était ça. C'était, je me battais depuis quelques années pour obtenir justice face à un notable, celui qui abusait de moi pendant quelques années. Je me suis jamais considéré comme le pot de terre, je suis autant pot de fer que lui. Et donc il n'était pas question que je laisse ces années d'investissement très lourd, puisque c'était un emploi à temps complet d'obtenir justice, d'obtenir réparation, s'achever comme ça, d'où ce livre. C'était pas une thérapie ou un exorcisme spirituel, c'était le moyen de passer par les médias, parce que j'ai bien compris que c'est la télé qui fait le chaud et le froid, le noir et le blanc, et qui décide un petit peu de ce qui est de la justice, ce qui ne l'est pas, en fonction de leur grille de lecture ou de leurs envies du moment ou de la journalisation de l'épisode qu'ils décident de faire de certaines vies.
Votre histoire, si j'ai parcouru un peu votre histoire.
Merci.
Et un médecin, sa femme.
Oui. J'étais de cette même ville, d'Outreau. En fait, ma mère ne voulait pas que j'abandonne les cours, parce que j'étais brillant, et elle avait raison. Et j'avais 15 ans, j'étais le seul homme véritable à la maison. Un grand-père, un concubin de ma grand-mère, une personne
un peu
insignifiant. Non, je suis de père... je ne connais pas mon père. Je ne le connaissais pas. Voilà, donc j'étais un enfant roi qui avait le pouvoir, qui décidait chez lui, et j'avais 15 ans, et je n'avais personne pour me mettre un coup de pied au derrière et pour me dire va en cours, pas en cours. J'avais décidé de ne plus aller à l'école. Et je tournais mal, j'étais un enfant agité, en esprit de liberté, épris de liberté. Et voilà, j'avais la connerie de l'époque, j'étais un petit con, j'écoutais Renaud. Mais lui, moi, plutôt que d'en faire des chansons, je mettais en application dans ma vie. Si vous voulez, j'aimais pas les bourgeois, je les volais, etc. J'étais dans la caricature que cet homme fait de la société, quoi. Et je vivais toute cette rébellion romantique d'adolescent. Voilà. Par exemple, en ne voulant plus aller en cours.
Et ma mère. Par rapport à ce médecin, là, par rapport à tout ça, comment. Ça se traduit par des attouchements, des... je ne sais pas, enfin...
Bon, je ne vais pas donner de détails, même si je l'écris exprès dans mes livres, pour des questions de pudeur, hein, que vous comprendrez bien. Mmh. Oui, mais bon, c'était mon médecin de famille depuis une dizaine d'années, et il a proposé à ma mère de me prendre chez lui, de me rescolariser. Ma mère a dit non dans un premier temps, elle trouvait pas de solution, elle essayait de me mettre en pension, je me sauvais de la pension, elle essayait de me mettre dans d'autres collèges, elle a essayé de me récompenser, il y avait des récompenses, j'en trouvais bien plus en n'allant pas en cours à cette époque dans mon esprit qu'en y allant, et de me punir et tout, rien ne fonctionnait, quoi. Et donc elle a fini par accepter. Et comme j'avais commis un petit acte de délinquance, j'ai cassé un garage avec un ami, je devais passer devant le juge pour enfants. Soit dit entre nous, je faisais le pied fier auprès de mes copains, mais j'étais pas tranquille quand même avec cette histoire. J'avais peur de me retrouver avec des ennuis de justice désagréables. Et donc elle a fini par accepter, et moi j'ai accepté. C'était notre médecin de famille depuis 10 ans, il nous soignait tous, on n'a rien vu venir, quoi. Il avait des masques sociaux très forts.
Et comment vivre ces moments-là? Comment vous en prenez conscience, ou qu'on abuse de vous, que...
J'en ai pris conscience immédiatement. D'abord, ça a été une...
Mais vous êtes les... Enfin...
Une incompréhension.
Je m'excuse d'avance s'il faut pour les mots que je vais employer, mais comment... Vous l'avez accepté, quoi.
Non, j'ai eu peur qu'il...
Vous avez... Oui, eu peur...
J'ai eu peur qu'il me tue si je n'accepte pas. D'accord. Et après, j'ai eu peur qu'il me tue parce que... Pour pas que je parle. Voilà, et cette peur a pris toute la place et m'a terrorisé. Et je vous dis, la peur, je ne connaissais pas avant. Et tout d'un coup, il y a eu cette peur énorme qui a tout envahi, qui m'a complètement déstabilisé, qui... Je n'ai... À cet instant T, je n'ai plus été le même. C'est ça,
j'imagine. Oui.
Voilà, on change tous tout au long de notre vie, hein, mais il y a des changements plus brutaux que d'autres. Et ça a été un changement extrêmement brutal, ça a été un choc. D'ailleurs, par la suite, j'ai dû suivre une thérapie cognitive ou comportementale pour un syndrome de post-traumatique complexe que j'avais déclenché face à cette peur. Et puis, dans ma tête, c'était les gens un peu faibles qui vivaient ça. Moi, j'avais pas le profil. J'étais un bagarreur. J'étais un individu brillant. J'ai une personnalité forte. Donc, rien qui appelle à être la victime de ce genre de prédateur. Et la honte en a été d'autant plus forte, d'ailleurs.
Oui, il y a une honte.
Oui, écoutez, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des tartes depuis qu'il est tout petit... Je voudrais pas. Ça lui semblerait, je ne vais pas dire normal, mais vous voyez, il aurait peut-être un petit peu plus d'entraînement et il aurait peut-être un peu plus mieux accepté. C'était un choc. C'était un choc énorme.
Et vous dites dans votre livre que ce médecin était quelque part protégé par son statut de médecin, enfin par d'autres choses, mais. D'autres personnes,
ben,
enfin, c'est votre
oui.
impression.
C'est une réalité, que j'explique très bien à travers les faits. Des dossiers étouffés, disparus, par un certain nombre. Il était président de deux clubs, d'abord le club de la table ronde, puis le club de 41. Il était médecin à la commission des permis de conduire pour la justice. Il buvait comme un trou, soit dit en passant, hein, mais il vous enlevait le permis si vous aviez bu 3 bières, quoi, voyez-vous, et il décidait de vous le redonner ou pas, mais bon, j'ai pas envie de refaire le monde. Et surtout pas cet homme, j'ai pas envie de m'occuper de la réhabilitation des cinglés, quoi, voyez-vous. Juste, ce que j'ai pu faire, c'est mon propre chemin. C'est mon propre chemin à travers ça. Je ne cherche pas à comprendre la folie et la perversité. Mais il a été effectivement protégé de par son statut social. Et c'est ce qu'il recherchait d'ailleurs. Hein. Il me disait, ces phrases 68 tardes, il est interdit d'interdire, je suis intouchable. Et il a cherché à être intouchable. Je ne cherche pas à être intouchable, je cherche plutôt à avoir des choses, pas grand-chose à me reprocher. Quoi.
Et aujourd'hui, vous le voyez comment ? Je ne sais pas s'il est toujours en vie, et s'il existe toujours.
Je pense qu'il est encore en vie. Il a déménagé, il n'habite plus au même endroit. Et il s'est terré quelque part, je ne sais où. Je ne cherche pas à savoir. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me muter. Je n'ai pas suivi le même. Il paraît que les gens violés deviennent violeurs à leur tour. Je n'ai jamais eu ce genre de pulsion. Je n'ai jamais été attiré par des gamins. J'ai cette chance, mais je ne suis pas non plus un chasseur de pédophiles punitif qui va créer son association et qui ne va plus penser qu'à ça toute sa vie. Ne penser à ça, ça m'intéresse pas. Je préfère la littérature, je préfère la beauté, je préfère l'amour, le vrai véritable amour, à ce genre de dinguerie. Je le laisse à ces dingueries, ça ne me regarde pas qu'il crève ou qu'il reste en vie, quoi.
C'est votre façon de vous reconstruire. C'est la littérature,
C'est de repartir sur ce qu'il y avait avant. C'est bon, la littérature, déjà lorsque j'étais gamin, j'écrivais.
Ce qu'il y avait avant, vous nous avez dit vous-même, vous étiez le petit voyou. Quoi.
Oui, mais il y avait
pour
aussi.
Être gentil, enfin.
Il y avait aussi la littérature aussi. Il y avait les littératures, on est un tout, je ne suis pas. Mmh. Et il y avait déjà, j'écrivais déjà, moi, à 11 ans. J'ai toujours été passionné de littérature. À 15 ans. Bien sûr. À 15 ans, je lisais déjà Steinbeck, j'avais déjà lu, je ne sais pas, moi, un tas de psychologues comme Bethlehem, etc. La pensée, la littérature ont toujours été une de mes passions. Ça a commencé tout petit avec les poèmes de Desnos, avec les Trois Mousquetaires, avec j'aimais la littérature comme d'autres aiment le foot ou le reggae, quoi. Voilà. Et je suis reparti vers ça vite fait. Je veux dire, je ne suis pas écrivain pour me guérir. Je suis écrivain. C'est dans mes veines, c'est inné. Moi, je crois beaucoup que qu'on est homme de l'être ou qu'on ne l'est pas. Je crois beaucoup à ces qualités innées liées à l'art. Voilà.
On va parler de liberté en musique. Vous pouvez nous appeler, si vous le souhaitez, au 01 34 12 12 22. Vous pouvez nous écouter sur Internet, si vous le souhaitez, toujours pareil. Vous aurez le droit aujourd'hui à des images, puisque la webcam est en route. Vous tapez IDFM sur un moteur de recherche, Google par exemple, et vous pouvez nous rejoindre. À tout de suite.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. caché pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Votre émission face à face avec l'Association nationale de DVO. Vous pouvez nous appeler si vous souhaitez poser des questions à nos invités. 01 34 12 12 22. Joseph, on a Fabrice, notre technicien. Nous avons un appel, on le prend. Bonsoir.
Allô ?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur, je me présente. Je m'appelle Bojena Bukowska.
Attendez, je vous demande deux minutes, on a un problème technique.
Je suis près de la radio.
Non, c'est pas ça.
Le son,
on n'a pas de son.
Il n'y a pas de son ?
Non, non, mais attendez.
Ah, ils n'entendent pas, mais ils n'ont pas de casque.
Ah, oui. Non, mais là-bas.
Bon, ça fait rien.
Oui ?
C'est bon.
Donc, je suis Bojena Antkowska, je suis d'origine polonaise.
Oui.
Excusez-moi, mais c'est très difficile pour moi de parler. Et en fin de compte, si j'ai bien compris, vous aviez dit que l'appel, si on appelle, c'est pour poser des questions
aux
personnes. Mais est-ce qu'on peut parler de ses propres problèmes ou pas ?
Tout à fait, oui, si vous voulez.
Donc, en fin de compte, je suis passée aussi par l'alcoolisme, mais c'est pas mon premier défaut. Je suis passée par plusieurs services de psychiatrie. Pour d'abord une mélancolie, des états psychiques indéfinissables. Mais mon addiction la plus importante, ce sont les psychotropes et les benzodiazépines. Et un jour, je suis allée voir un psychiatre qui m'a complètement détruite parce qu'au lieu de faire ma psychanalyse, il a couché avec moi. Et maintenant, j'ai des cauchemars toutes les nuits et j'ai des envies suicidaires. Et je ne sais pas comment m'en sortir de ces benzodiazépines. Pourtant, je n'ai pas été aussi brillante que les hommes qui ont parlé à l'école. Ici en France, j'ai fait quand même une capacité en droit avec mention bien. Par la suite, comme j'avais des problèmes psychologiques, j'ai fait des études d'infirmière en psychiatrie. Et je ne sais pas si vous avez la compétence ou si c'est seulement, si on peut juste se confier, mais est-ce que vous avez la compétence pour donner des conseils comment s'en sortir ? Est-ce qu'on jette ça un jour tout simplement à la poubelle, on commence une autre vie avec le violoncelle, avec les belles choses, ou est-ce qu'il faut continuer avec ça ?
Jean-Paul Bruno va vous répondre.
Essentiel. Donc, vous êtes en demande d'aide et surtout d'une écoute pour déjà bien faire la part des choses, de ce qui relève bien sûr de la maladie, de ce qui relève également de ce que vous avez subi, soit en lien avec votre fragilité ou votre vulnérabilité. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il va falloir séparer, ce qui est du traumatisme et de ce qui est de la dépression. Et ça, je pense qu'il faut déjà un moment d'écoute, d'évaluation, et orienter sur des personnes qui, utilement, vont pouvoir prendre une partie, en tout cas, de ce qui est de l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, du traumatisme. Ça, c'est une chose, mais il ne faut pas tout mélanger. Je pense que le médicament peut jouer un rôle. En tout cas, il faut le maintenir, parce que s'il est là, c'est que...
Oui, mais j'avais ça par bras, ton tir.
Et ce qu'il faut, c'est un temps d'écoute régulier pour arriver à construire autre chose que ce qui est mémorisé pour l'instant. Donc, reconstruire quelque chose de plus confortable, de plus agréable, avec son environnement et en tout cas en essayant de gommer un peu ce passé avec non pas des médicaments, mais plutôt un suivi d'un psychologue comportementaliste ou autre, mais en tout cas quelqu'un qui va pouvoir penser des blessures psychologiques et vous amener à progresser à votre rythme, en tout cas, sans aller forcément tout noyer et en permanence avec des produits psychoactifs ou psychotropes, en tout cas. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de prendre un peu de temps pour vous, pour rencontrer. Nous avons un thérapeute à l'association qui fait du suivi ambulatoire, de l'écoute, et on peut donc déterminer avec vous quelles sont les pistes à utiliser avec tout le réseau dans lequel on fonctionne, avec des spécialistes ou en tout cas des personnes en qui nous avons confiance, avec disons une progression qui sera validée par ce que vous ressentez. Et ça, c'est important de qu'on puisse faire le point, de jouer un peu l'effet miroir de cette progression à travers un suivi ambulatoire, et puis pourquoi pas aller un peu plus loin vers les soins, mais les plus appropriés en fonction soit de la dépression, soit d'autres problématiques qu'on pourra identifier. Mais je dirais que il faut pas se limiter à un avis, il faut quelquefois donc expérimenter plusieurs rencontres de spécialistes, hein. Voilà, donc moi je...
Madame, je vous propose une chose, on peut pas régler tout ça ce soir, mais contactez l'association dès demain matin.
D'accord.
Jean-Paul Bruno peut vous laisser, si vous êtes prêt, noter un numéro de téléphone.
Exactement, oui.
Oui, donc vous pouvez noter donc 01 34 28 64 50.
01 34 28 64 50.
Donc n'hésitez pas, je serai sur l'association à partir de 9h, donc n'hésitez pas et on prend rendez-vous.
Je vous remercie beaucoup et puis je souhaite bon courage à tous les participants de l'audition. Merci beaucoup, au revoir.
Vous et merci. Prenez soin de vous.
Merci de votre appel. Joseph, voilà. Des envies de suicide, vous nous avez dit tout à l'heure.
Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, toute ma vie a été rythmée par une chose, en tout cas, c'est qu'il ne se passait pas un jour sans que je puisse, je pense, une seule fois à la mort. Je pensais à la mort tous les jours. Il a fallu, et pourtant, comme la dame qui a parlé là à l'instant, j'ai fait de la dépression, j'ai pris des médicaments, j'en ai pris beaucoup, etc. Et je veux dire aussi que les médicaments pour moi ont été un allié objectif à la dépression d'une certaine façon, et l'alcool a été surtout l'allié objectif de la dépression pour moi à un moment donné. Et pour finir, je dirais que j'ai pas dit la fin qui est très importante pour moi. Il a fallu que je fasse le centre apte et que j'aille surtout à la DVO pour évacuer ces idées de suicide. C'est là, à ce moment-là, quand j'ai fait ces séjours-là, quand j'ai commencé à fréquenter les fraternités narcotiques anonymes, que ces idées-là ont déserté mon esprit. Voilà.
Je vais vous demander de trahir un secret. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IVO, tout au moins, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Comme ça, sans chercher, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté pour que ça aille mieux?
C'est difficile de répondre honnêtement à la question, hein, parce que moi, ce que j'y ai trouvé, en fait, c'est une certaine chaleur humaine. J'y ai trouvé aussi quelque chose qu'on ne trouve pas toujours ailleurs, c'est que l'esprit d'initiative est récompensé. C'est très important parce qu'on parle beaucoup de rétablissement et de etc., etc., mais le plus important, c'est quand même ce rétablissement-là qu'on se forge soi-même, avec des principes, mais on se forge soi-même avec les autres. Et ça, c'était assez nouveau pour moi.
Avec les autres.
Ouais, moi qui suis d'un naturel solitaire et peut-être même taciturne, j'ai eu du mal, mais je m'y suis plié. Et puis l'autre chose aussi qui m'a permis aussi de... Il y avait aussi la possibilité parfois d'avoir des petites poches de vie personnelle où on pouvait presque faire, je dirais, l'école buissonnière, mais sans consommer. Voilà. C'était très important pour moi.
J'ai envie de vous poser une question. Ouais. Alors c'est provocateur, bien sûr, allez-y, mais c'est le but de l'émission. Je la poserai aussi à Ludovic. Ça sert à quoi la vie? Vous en avez fait quoi jusqu'à maintenant et vous allez en faire quoi demain? Bon, vous êtes au tiers de votre vie, enfin j'en sais rien, mais comme ça,
Moi je suis un peu d'accord avec un philosophe qui a dit que vivre c'est apprendre à mourir, voilà. Justement, ne plus avoir peur de cette mort qui nous attend tous.
Aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus consommer.
Oui.
Et vous, cette consommation, vous, est-ce qu'on la remplace par quelque chose ou, ben, je ne sais pas.
Vous savez, il y a une chose qu'on ne remplace pas, c'est la peur.
On arrive à la maîtriser. On apprend
Je pense que oui, je pense qu'on arrive à cohabiter avec elle. Vous savez, je crois que c'est un peu comme un enfant qu'on éduque, c'est-à-dire qu'on la laisse, elle est là. Moi, je l'éduque, j'essaye en tout cas. C'est-à-dire que je la laisse là, je peux pas la supprimer puisqu'elle est là. Et au fur et à mesure que je me familiarise avec elle, c'est moi, parce que moi, c'est une affaire de moi pour l'instant encore.
Bien sûr.
J'arrive à peu près à affronter la vie telle qu'elle s'offre à moi. Et les épreuves de la vie surtout.
À peu près.
Oui, pas toujours. J'ai eu des épreuves aujourd'hui qui ont été assez fortes émotionnellement. J'ai pas eu envie de consommer, mais je sais que mon esprit à un moment donné a complètement chaviré. Je pouvais plus me concentrer pendant des heures. Voilà.
C'est indiscret de vous demander.
Parce que.
Qu'est-ce qui fait que on est troublé émotionnellement à ce point de.
Ben là, j'ai une proposition de travail qui me permettait de renouer avec ma passion, avec mon passé antérieur, mon travail antérieur, c'est-à-dire quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais quelque chose aussi, un travail dans lequel j'ai beaucoup consommé aussi. Et moi, j'ai assez peur j'ai assez peur que ces retrouvailles se scellent par de nouveau une rechute, quoi. J'ai vraiment très peur de ça. Je veux dire, c'est même si j'ai envie d'y aller, mais je pense que c'est prématuré. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai parlé avec quelques personnes. Je pense que c'est prématuré et je pense que ce sera dur pour moi, mais je vais dire non. Je pense, oui. Ouais.
Alors que non au travail.
Non, à ce travail-là, je travaille actuellement, mais on m'a proposé quelque chose qui est pour moi beaucoup plus excitant, beaucoup plus, auquel je crois beaucoup plus. C'est ça le plus dur pour moi, c'est de renoncer à ça. Quelque chose qui n'est pas une promesse de bonheur, mais en tout cas une promesse d'accomplissement. Mais ce sera pour plus tard, parce que je sais que ça va générer chez moi des états émotionnels très instables, beaucoup de peur notamment, et beaucoup d'inquiétude, et surtout beaucoup d'états de panique. C'est surtout ça, donc je ne sais pas gérer. Moi, j'ai des états de panique, des crises de panique, des crises d'attaque de panique. Et voilà, alors que c'est quelque chose, quand même, il faut savoir que pour moi, c'est très difficile, parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant il y a des années. C'est l'histoire de contact, de cheminement, tout ça, et on me le propose aujourd'hui, je vais dire non. J'espère en tout cas que ce sera une occasion, enfin, qu'il y aura une occasion nouvelle qui se présentera. Voilà, c'est tout. C'est assez dur, quoi.
Et aujourd'hui, avec l'association, vous pouvez dire oui. Pour vous, vous partez à l'échec, c'est ça?
je pars
c'est,
pas.
C'est la peur. Bah, c'est la peur qui fait que non. Parce que je sais pas.
Non, c'est pas du tout la peur, c'est simplement qu'à un moment donné, je suis réaliste.
Vous avez dit, j'ai peur de reconsommer.
Oui,
de...
évidemment, j'ai peur. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas. Je pourrais y aller, je pourrais me dire que je vais être plus fort que cette peur, plus fort que cette chose qui me pousse
ça.
À consommer. Mais je suis pas plus fort, je suis pas plus fort, c'est tout. Et peut-être qu'un jour, je pourrais y. Je pense que j'ai besoin de dissocier dans ce passé-là, ce qui m'a conduit à consommer en travaillant, puisque moi, je consommais en travaillant, en faisant ce métier-là, et je consommais même beaucoup. Et ce plaisir que j'y trouvais, et que ce plaisir-là ne passe pas nécessairement par de l'inquiétude, donc de la peur, et aussi par la consommation. Moi, c'était les bières, je commençais à 7h du matin. Je m'enfilais 3-4 bières dès le matin avant de commencer à travailler. Voilà, des fois plus.
Jean-Paul Bruno, comme Joseph, quand on s'en est sorti, comment peut-on maintenir cette abstinence? Et là, dans le cas de Joseph, je sais pas. J'ai envie qu'il accepte ce plaisir, ce métier qui.
Mais c'est pas forcément en assumant ses passions qu'on est hors de danger. Donc, il a la prudence d'évaluer un peu. Ce qui est de son état à la fois passionnel, en tout cas pour un métier qu'il aime et qui lui donne en tout cas beaucoup de récompenses sur En tout cas, son ego serait plutôt flatté s'il retournait vers ça, mais il sait aussi quelle est sa fragilité. Et puis, il a beaucoup d'amis, parce qu'il n'est plus à EDVO, il est réinséré maintenant, enfin, il a repris son autonomie, mais il a encore des amis et il a beaucoup de contacts, je pense, avec des personnes qui ont encore plus de recul que lui. Donc, il peut s'appuyer un peu sur cet effet miroir de